Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Science publique, Michel Albert Gonti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science publique. Vous retrouvez aujourd'hui l'émission de Science publique réalisée une fois par mois en collaboration avec le magazine Science et Vie. Comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Science publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. La science peut-elle réinventer la ville ? En 2050, les prévisions moyennes tablent sur une population sur Terre de 9,5 milliards d'êtres humains. Les deux tiers d'entre eux, soit plus de 6 milliards d'individus, devraient vivre dans une ville, contre 54% aujourd'hui en moyenne. Mais déjà 82% de la population de l'Amérique du Nord vit dans une ville. D'ici 2050, selon l'ONU, la population urbaine augmentera ainsi de 2,5 milliards de personnes. Déjà certaines villes atteignent des tailles que n'aurait certainement pas imaginé Émile Verhaeren lorsqu'en 1895, il dénonçait la démesure citadine dans son recueil de poèmes intitulé « Les villes tentaculaires ». Aujourd'hui, Tokyo compte 38 millions d'habitants, Shanghai 23 millions, Mexico, Bombay et Sao Paulo 21 millions, Osaka plus de 20 millions. Les récentes alertes à la pollution de l'air à Paris et dans plusieurs villes françaises soulignent l'état critique de l'urbanisme, sans parler de la saturation des transports, des problèmes de logement, de sécurité ou d'énergie. La ville atteint ses limites sans véritable perspective d'amélioration. Alors que faire ? Comment sortir de cette fuite en avant de moins en moins vivable ? Face au désarroi des urbanistes, ce sont les physiciens et les mathématiciens qui arrivent à la rescousse. Faute de solutions miracles, ils disposent de données de plus en plus nombreuses et variées, ainsi que de moyens d'analyse de plus en plus puissants. Et si le chaos des villes cachait des lois similaires à celles de la physique ou de la biologie ? Ces systèmes complexes d'interaction, de dynamique, d'évolution sont peut-être régis par des règles qu'il serait bien utile de connaître pour mieux prévoir et mieux maîtriser leur devenir. Difficile de ne pas penser à SimCity, ce jeu vidéo de simulation sorti en 1989 et qui donnait justement l'impression aux joueurs d'être le maître de la ville. Comment les mathématiques peuvent-elles aider les urbanistes à prendre des décisions ? Quel type d'informations peut-on extraire des big data ? Quel rôle peuvent jouer les habitants eux-mêmes des villes, de plus en plus équipés d'objets comme les téléphones intelligents ? Pourrait-on améliorer l'aménagement du territoire en prenant en compte ce que nous dit la science sur l'évolution des villes ? Les politiques urbaines font-elles déjà appel aux scientifiques pour planifier ? L'avenir des cités, pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui, dans cette émission enregistrée le 28 avril à la Maison de la Radio, Marc Barthélémy, chercheur à l'Institut de physique théorique du CEA à Saclay et chercheur associé au Centre d'analyse et de mathématiques sociales à l'EHESS, Renaud Lambiotte, physicien, professeur en mathématiques appliquées à l'Université de Namur, Florent Lenéché, ingénieur géographe, maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et chercheur au laboratoire Ville, Mobilité, Transport et enseignant à l'École d'urbanisme de Paris. Et nous sommes avec Vincent Nouiriga, auteur de l'enquête intitulée « Réinventer la ville » publiée dans le numéro de mai 2015 du magazine Science et Vie, notre partenaire pour cette émission. Et vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science publique sur franceculture.fr. Vincent Nouiriga, bonjour.
Bonjour.
Vous signez donc cette enquête dans Science et Vie. Alors, comment est né ce sujet et pourquoi le traiter aujourd'hui ? Question un peu traditionnelle.
Oui, question traditionnelle. En fait, depuis quelques années, nous, à la rédaction, on voit émerger un nouveau champ de recherche scientifique qu'on pourrait qualifier peut-être d'urbanisme quantitatif. Enfin, mes invités en diront plus. Et c'est vrai qu'en épluchant des publications comme on le fait chaque jour, qui traitent de maths et de physique, on tombait sur ces études qui nous ont surpris au début, parce qu'on peut penser que l'organisation de la ville, c'est plutôt l'apanage des urbanistes, des ingénieurs des transports, des économistes, des sociologues et des politiques aussi. Et là, on voit se pencher des physiciens, des mathématiciens sur cet objet qui s'empare de la ville comme d'un objet scientifique, qui les étudie avec leurs outils habituels, leurs équations habituelles, mais avec un regard... En tout cas, ils offrent un regard un peu frais et neuf sur un vieil objet scientifique qui remonte à la Mésopotamie, enfin qui a 6000 ans d'existence.
On va justement explorer ce nouveau regard. Marc Barthélémy, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes physicien et qui plus est théoricien. Et vous vous intéressez pourtant à la ville. Alors comment et pourquoi avez-vous été conduit à travailler sur ce sujet ?
Alors, c'est un peu une longue histoire. Rapidement, ça fait 10 ans que les physiciens, un peu plus même, ont commencé sérieusement à explorer d'autres domaines. C'est en ce qui me concerne, c'est à partir des réseaux. J'ai commencé beaucoup à travailler sur les réseaux spatiaux. Alors, il y a les réseaux de lignes aériennes, par exemple, et puis plus proche de la ville, il y a les réseaux de transport, les réseaux de rues, de routes, d'autoroutes. Et de fil en aiguille, en regardant ces réseaux, j'en suis venu à m'intéresser à la ville, à qu'est-ce qui faisait la ville finalement, pourquoi elle évoluait, comment elle grossissait. Et la grosse différence, et ce qui rendait finalement possible que des physiciens travaillent sur ce sujet, c'est l'avènement de données massives. On a de plus en plus de données sur les villes. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est-à-dire qu'on pouvait commencer à faire un travail dans l'esprit, disons, d'un physicien, c'est-à-dire modéliser, faire des prédictions, comparer avec les données et éventuellement revenir sur le modèle si ça marchait pas. Et la présence de données, et c'est somme toute relativement récent pour les villes, a tout changé, ce qui fait que des physiciens comme moi sommes tombés dans la ville.
Très bien, mais on va y revenir en détail. Renaud Lambiotte, bonjour.
Bonjour.
Donc vous, même question, d'une certaine façon, vous êtes physicien à l'origine et maintenant professeur en mathématiques à l'université de Namur. Pourquoi vous intéressez particulièrement à la ville ?
J'ai aussi un parcours qui est un petit peu similaire à celui de Marc Barthélémy qui vient de parler. Donc, moi aussi, il y a une dizaine d'années, commencé à m'intéresser aux grands réseaux. Et aussi, pourquoi les grands réseaux ? Parce que tout d'un coup, donc, ces réseaux devenaient disponibles sous forme de données. Et donc, demander le développement de nouveaux outils et de nouveaux modèles pour être capable de les analyser, de les comprendre. Et c'est, enfin, moi, de mon côté, c'est un peu par hasard que je me suis intéressé aux villes. C'était il y a, je dirais, 6-7 ans. J'avais des collègues à Cambridge qui avaient justement des grands jeux de données de géolocalisation en ville à travers un réseau social géolocalisé. Et qui avait justement une envie de modélisation, une envie d'être capable de placer ces données dans un cadre théorique pour essayer de mieux comprendre la manière dont le système évoluait. Et donc, voilà, naturellement, on a collaboré ensemble, on a fait une collaboration qui a duré plusieurs années et sur lesquelles on s'est intéressé à plusieurs questions reliées donc à la mobilité à l'intérieur des villes.
Très bien. Florent Lenéchet, bonjour.
Bonjour.
Donc vous, également un parcours d'une certaine façon, puisque vous êtes à la base ingénieur et géographe et que maintenant vous vous intéressez à la ville, peut-être plus du côté de l'application de certaines des règles que l'on peut étudier en sciences, mais là aussi avec un rôle important parce qu'il s'agira évidemment de transposer ce que l'on peut apprendre grâce à la science dans la réalité des villes.
Oui, tout à fait. Moi, je travaille dans un laboratoire plutôt sur les transports, donc une des dimensions dans les problématiques d'aménagement urbain. Effectivement, c'est un laboratoire où il y a des problématiques un peu théoriques comme les deux chercheurs précédents, et également un regard sur les applications, notamment, on peut penser évidemment au futur métro du Grand Paris et à essayer de comprendre, d'évaluer les conséquences que ça peut avoir à un certain nombre des gares sous l'angle du développement économique, sous l'angle des inégalités sociales, etc. Donc effectivement, voilà, ce parcours qui naît d'une curiosité pour les villes, aujourd'hui effectivement se rencontre avec des chercheurs physiciens qui ont la compétence pour traiter des données nouvelles. Mais effectivement, moi je serais intéressé aussi à parler des enjeux nouveaux ou pas d'ailleurs, ou anciens, et surtout des manières d'appréhender ces enjeux, soit à l'aide de ces nouvelles données, soit avec un regard critique également sur ces nouvelles approches et ce qu'on peut en attendre.
Très bien. Alors justement, la première question qu'on peut se poser, c'est peut-être, puisqu'il s'agit de science, donc une approche rationnelle et qui s'appuie sur des phénomènes bien identifiés en général, La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une ville? Quelle est la définition d'une ville? Et d'ailleurs, Vincent Nourigal la pose dans son dossier, dans son enquête. Il faut peut-être définir cet objet. Et semble-t-il, ça n'est pas si facile, oui, Vincent.
Les chercheurs ont du mal à trouver une définition standard, en tout cas universelle, qui correspondrait à tout le monde, enfin sur lequel tout le monde pourrait s'appuyer pour tester justement ces théories scientifiques. On a besoin d'un objet bien défini. Et donc, alors, il est difficile, visiblement, de circonscrire la ville, de savoir par exemple quelle densité de bâtis une ville à quelle densité de bâtis, par exemple l'espacement entre deux habitations, est-ce qu'il doit être de 50 mètres, de 200 mètres ou de 500 mètres par exemple pour pouvoir parler de ville. Pareil pour la densité de population, pareil pour la population totale, et sachant que les frontières administratives d'une ville n'ont pas grand sens, enfin ça n'a pas vraiment de pertinence de s'en tenir à Paris intramuros, disons.
Alors voilà, maintenant le concours est lancé, donc la définition de la ville. Florent Lenéché pour commencer.
Oui, pardon, c'était pour prendre ma casquette de géographe justement sur ces questions qui moi m'ont posé beaucoup de problèmes quand je suis arrivé dans ce champ il n'y a pas hyper longtemps, hein, comme les autres collègues il y a une dizaine d'années, parce que effectivement cette diversité de définitions, donc les définitions morphologiques dont Vincent Nerega a parlé, les définitions administratives qui ont tout de même ce sens que c'est les personnes qui sont justement en charge de ces entités administratives qui vont prendre des décisions au sein d'un jeu d'acteurs complexe, mais donc ils ont au moins ce rôle-là, hein, que c'est d'être les réalisateurs, on va dire, de ces théories. Et puis aussi les définitions fonctionnelles. Je pense qu'il ne faut pas non plus omettre le fait que les villes aujourd'hui changent notamment sous l'impulsion de flux qui sont de plus en plus complexes, sur des portées de plus en plus longues. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup bien d'aires urbaines, par exemple, qui sont l'adjonction aux agglomérations bâties des centres-villes, l'ensemble des zones, donc les zones périurbaines, où les gens, de façon assez fréquente, prennent les transports, la voiture, les transports en commun, pour se rendre travailler en ville. Et donc, cette ville des flux, c'est aussi une problématique importante, notamment du point de vue, on en parlera sans doute tout à l'heure, énergétique, émissions de gaz à effet de serre.
Absolument. Renaud Lambiotou, si on vous posait cette question de la définition de la ville, quelle serait la vôtre?
Donc évidemment, il y a une dimension culturelle. Hein, parce qu'une ville, c'est aussi toutes sortes de normes culturelles qui sont partagées par les gens. Mais au-delà de ça, c'est vrai que nous, pour des personnes qui sont peut-être plutôt...
Mais comme objet scientifique, voilà.
Pour des gens qui sont plus intéressés au niveau quantitatif, voilà, une manière de faire, c'est justement de se dire que la ville, c'est les gens qui la composent. Et donc, d'essayer de retrouver des zones géographiques qui représentent une certaine cohérence et densité en termes de mobilité d'individus. Donc, ça veut dire qu'une manière de faire pour définir des... En se basant sur des données des zones géographiques, c'est justement d'essayer de trouver des zones denses dans lesquelles les personnes ont tendance à rester pendant suffisamment de temps et qui naturellement vont former des groupes pas tout à fait indépendants des autres. Les villes ne sont pas coupées les unes des autres, mais suffisamment coupées les unes des autres que pour être considérées comme étant indépendantes.
Marc Barthélémy, par exemple, si on prend l'exemple de Paris, c'est quoi la ville de Paris au fond?
Alors, c'est en effet un problème assez sérieux, et les géographes, ça fait longtemps finalement, se posent la question, et on peut constater qu'il n'y a pas de définition universelle de la ville et ou de l'aire urbaine, disons. Donc c'est un problème très sérieux parce que beaucoup de mesures en dépendent. Et on peut, à ce stade, moi je pense qu'il faut tester plusieurs définitions et mesurer le même, par exemple, la quantité de CO2 émise par les transports, par exemple, pour plusieurs définitions de la ville. Donc, par exemple, pour Paris, on pourrait essayer Paris intramuros. Ensuite, on pourrait essayer une autre définition qui serait l'amas obtenu par, surface bâtie contiguë. C'est-à-dire qu'on raccroche les morceaux, s'ils sont pas trop loin, on raccroche un morceau de bâtie au reste et on forme, du coup, l'amas le plus grand. Ça ressemble un peu à la percolation en physique. Et c'est ce grand amas qu'on pourrait définir comme ville, par exemple.
Alors, si on fait ça, par exemple, on va jusqu'où en région parisienne?
partie
plus Paris plus petite plus les trois Paris plus les trois départements de petite couronne plus encore quelques zones
donc 92 93
94 plus encore d'autres zones dans les
ça dépend du seuil en fait. Si on prend un seuil très petit, si on considère un seuil très petit, on va arriver à une région très grande. Alors justement, ça dépend du seuil de densité qu'on choisit, c'est-à-dire au-dessus on garde et en dessous on garde pas. Si on prend un seuil très petit, on va aller très loin, si on prend un seuil de densité très élevé, on va se restreindre à Paris. Et justement, je crois que là on a un outil tout d'un coup qui est comment en fonction de la densité seuil, comment la ville l'objet ville évolue. Donc là, ça fait partie d'études qui sont menées actuellement.
Florent Lenéché.
Oui, c'est ce que je voulais dire, puisqu'il y a un chercheur qui vient de Belgique, ça me rappelait les travaux d'une doctorante sur la morphologie urbaine dans ce pays. Et effectivement, par rapport à ces effets de seuil, ils ont pris comme définition, en tout cas à l'époque de la thèse, le seuil de 100 mètres pour définir les discontinuités entre bâtiments, pour délimiter un certain nombre d'agglomérations, notamment parce que la forme urbaine en Belgique est très différente de ce qu'on peut observer dans un certain nombre de régions françaises. Et si on prenait le seuil de 200 mètres, on en couvrirait en fait quasiment toute la Belgique. C'est-à-dire que toute la Belgique serait une ville. Et donc, évidemment, ça serait pas très pratique. Donc,
c'est ça, il y a de grosses différences. Si je suppose qu'on applique les mêmes règles à Tokyo, par exemple, ça n'a pas le même effet qu'en Belgique ou en France ou même en Allemagne. Et là, on parle de 38 millions d'habitants à Tokyo, ce qui est quand même plus de la moitié de la population française. Donc, c'est quelque chose qui est difficile de s'imaginer en tant qu'une entité de ville. Marc Barthélémy.
Oui, mais je crois que justement, c'est important de se mettre d'accord sur une définition si on veut faire, disons, ce qu'on pourrait appeler de la science des villes. En ce qui me concerne, je voudrais justement comparer Tokyo à Paris et à d'autres villes et en retirer les mécanismes fondamentaux de formation et d'évolution. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver justement à une définition un peu universelle de la ville pour pouvoir comparer ces différents objets. Je pense que la ville, c'est le même objet, c'est le même animal partout, mais qui se développe sur différents substrats, avec différentes géographies, différentes histoires. Mais pour ça, évidemment, il faut la même définition. Donc c'est un point très important, alors qui paraît un petit peu technique, mais qui est quand même important. Longtemps, on a considéré effectivement la définition administrative, mais on sait très bien qu'elle est plus valable. Donc il faut adapter un peu selon ce qu'on mesure. Donc il faut aussi réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on veut mesurer finalement dans la ville et quelle est la façon la plus intelligente de définir la ville selon cette quantité qu'on veut mesurer. Mais c'est important de pouvoir comparer Tokyo justement à Paris et quelles sont les différences par exemple.
Alors on voit bien de la difficulté déjà puisque dès la définition de l'objet, c'est pas d'une grande simplicité, d'une grande clarté et pas encore très stabilisé. Mais malgré ces difficultés, est-ce qu'il y a des théories aujourd'hui de la ville, des aspects sur lesquels des théories peuvent être construites. Florent, peut-être Renaud Lambiotte d'abord.
Ouais. Alors, déjà dans l'histoire, la science des villes ou les sciences des villes, c'est pas quelque chose qui est apparu il y a 10 ans. Hein. C'est l'urbanisme, c'est un champ de connaissances qui. Moi, j'ai lu des articles qui dataient des années 30-40. Très certainement, il y a des choses qui existaient bien avant. Mais il y a déjà quand même pas mal de choses quantitatives et qualitatives qui ont pu être proposées dans tout le courant du XXe siècle. Et donc, ça veut dire que il y a déjà un grand nombre de théories qui ont pu être proposées, soit sous forme théorique, sous forme vraiment de suppositions, de modèles qui n'étaient peut-être pas vérifiés de manière empirique, mais qui avaient beaucoup de sens. Et donc, c'est vrai que moi, personnellement, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est d'être capable d'aller chercher dans cet amas de théories qui n'ont pas pu être vérifiées à l'époque parce que justement, ils n'avaient pas de données pour être capable de les vérifier. Et d'aller voir dans ces théories lesquelles peuvent, de nos jours, être vérifiées empiriquement, parce qu'en tant que scientifique, on part quand même de l'idée qu'une théorie sera juste, pas si elle est belle, mais elle sera juste si elle reproduit la réalité ou elle permet de reproduire certains aspects de la réalité. Et donc ça veut dire que par exemple quelque chose qui a un très vieux concept, c'est le concept de modèle de gravité. Donc qu'est-ce que c'est qu'un modèle de gravité? C'est quelque chose qui permet d'essayer d'expliquer des flux entre des villes ou même parfois à l'intérieur des villes en fonction de la distance qu'il peut y avoir entre deux points, bien évidemment, d'une espèce de masse associée à ces deux points. Et cette masse, ça peut être un certain attrait culturel que peut avoir un endroit. Donc, par exemple, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui passent aujourd'hui à la maison de la radio parce qu'elle attire des gens venant de l'étranger pour venir parler à la radio. Donc ça veut dire que non seulement la distance physique importe, mais également une certaine notion d'attrait.
Et donc ça veut dire que ça pourrait être le centre de Paris. On ne va pas prendre que Paris comme exemple, oui, parce qu'on va nous accuser évidemment, d'accord, de parisianisme. Mais dans le cas de Paris, il y a quand même cet intramuros qui pourrait être considéré comme la planète, qui attire des objets qui sont situés autour d'elle.
Bah alors enfin voilà. Donc je suis pas de Paris, mais je crois que je vois plus ou moins Paris intramuros. Mais c'est sûr que voilà, c'est quelque chose. Donc le modèle de gravité, c'est basé sur le modèle de la gravité de Newton. Enfin, c'est inspiré en tout cas. Dans ses formes les plus simples, ce sont des équations qui ressemblent très, très fort aux équations de la gravitation, même si elles ont été après généralisées pour être un petit peu plus proches de la réalité. Et donc, de fait, ce sont des équations qui, dans un premier temps, permettent déjà relativement bien d'expliquer certains flux. Donc, d'expliquer des flux de population, donc ça veut dire que les flux de population peuvent être relativement bien prédits avec des équations assez simples, dans lesquelles on a des masses, qui sont ces attraits associés à des lieux. La notion de distance, et cette notion de distance, elle peut être mesurée en kilomètres, elle peut être mesurée en termes de temps de parcours. Donc, il y a différents moyens de mesurer ces notions de distance. Et le fait est que, voilà, si de nos jours, on étudie des flux de population, par exemple, à l'intérieur de villes, si on prend des variantes de ces modèles de gravité, on peut déjà avoir des précisions relativement élevées sur les différents types de transitions qu'on peut observer en utilisant ces données, soit de téléphonie mobile, soit d'utilisation de cartes de métro, qui nous génèrent des données de trajectoires individuelles et dont on peut voir que les trajectoires sont finalement pas exactement reproduites par des modèles, mais finalement relativement bien expliquées.
Donc cette attraction de la ville ou de son centre suivrait cette loi de la gravité qui dit que son influence diminue suivant l'inverse du carré de la distance, ce qui peut paraître satisfaisant pour l'esprit, mais qui entraîne des mouvements de dénégation de la part de Marc Barthélémy, qui va nous expliquer pourquoi.
Non, mais c'est vrai que l'exemple, je trouve, de la loi de gravité, hein, c'est peut-être pas le bon exemple ici, parce que ça a été fait depuis longtemps, en fait. Les années 40, déjà, il y a des vieux papiers de Zipf des années 40 qui parlaient de cette loi de gravité. Donc, c'est pas, à mon sens, la meilleure illustration de ce que pourrait être cette nouvelle science des villes, parce qu'il faut quand même il faut rendre hommage quand même à tous les gens qui ont travaillé sur la ville depuis au moins 50, 60 ans facilement. Il y a une énorme partie de l'économie urbaine, de la géographie quantitative qui réfléchit théoriquement sur la ville. Et c'est vraiment un corpus très important. Donc on peut pas, on n'arrive pas en terrain vierge. La différence, encore une fois, c'est qu'on a des données. Et beaucoup de théories qui existent, qui sont très belles, n'ont pas été toutes vérifiées. Donc là, on peut arriver vraiment à ce niveau-là, comme l'a dit Renaud, de vérifier empiriquement les prédictions de théories. C'est ça qui est vraiment très nouveau.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui de la question « La science peut-elle réinventer la ville ?» avec nos invités Marc Barthélémy, chercheur à l'Institut de physique théorique du CEA à Saclay, Renaud Lambiotte, professeur en mathématiques appliquées à l'Université de Namur, Florent Lenéché, maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et Vincent Nouiriga, journaliste à Science et Vie, notre partenaire pour cette émission. Donc oui, on voit bien que trouver des lois, c'est pas forcément très facile. On peut aussi faire référence, et je crois que vous avez l'une de vos publications, Marc Barthélémy, qui concerne quelqu'un qui a eu un impact historique sur la ville de Paris. On n'en sort pas, décidément. C'est le baron Haussmann qui a transformé complètement la ville. Est-ce qu'il s'est appuyé à l'époque sur des approches scientifiques ou bien sur d'autres analyses?
Oui, ça fait partie d'études que je trouve pour ma part passionnantes. On peut maintenant numériser un grand nombre de cartes anciennes. Donc là, en l'occurrence, avec un historien de l'HESS, Maurizio Gribaudi, et d'autres collègues, on a eu accès aux cartes numérisées des plans de Paris à partir de 1789. On est maintenant en train de remonter même plus loin. Et donc, c'est ce qu'on a regardé et on s'est aperçu que, dans le cas d'Haussmann, donc, qui a fait beaucoup de modifications à Paris, essentiellement dans le milieu du 19e siècle, hein, autour de 1850, on a pu vraiment tester comment une autorité centrale a pu perturber l'évolution d'une ville comme Paris. Et ça, c'est pour ça que c'était une occasion unique, finalement, de voir auto-organisation versus gouvernance. Et on a pu, en effet, constater que Haussmann, alors, est-ce qu'il l'a pas forcément fait exprès, mais on a pu constater quantitativement, en mesurant des choses sur les réseaux de rue, qu'il a vraiment participé à la fluidification, disons, du trafic en ville, et de manière assez subtile. Je ne sais pas s'il l'a fait vraiment exprès. Ça faisait partie du problème de relier les gares entre elles ou les points importants entre eux. Mais de fait, la centralité a été complètement réorganisée dans la ville de Paris, et ce qui a eu un impact assez positif au moins au début.
Mais l'effet subtil 150 ans après, oui. Mais à l'époque, les travaux étaient monstrueux. Enfin, c'était d'une violence. Ce qu'a fait Haussmann à l'époque, il y avait peut-être d'autres moyens de faire, on ne sait pas. Enfin,
tout à fait. Non, mais ça a été. De toute façon, il était là, le centre de Paris, ça se passait assez mal. Il était très congestionné. Il y avait pas mal de pollution aussi, de problèmes d'hygiène. Même si c'est un petit peu contesté, mais ça a été un champ de bataille terrible. Il y a eu un nombre de destructions incroyables. Tout à fait. Ça s'est pas fait sans douleur. En revanche, le résultat, d'un point de vue mathématique, quand on regarde le réseau de rues avant Haussmann et le réseau de rue après Haussmann, on peut mesurer des différences notables sur la distribution des nœuds, des points importants, des points centraux, comme on dit, qui sont assez spectaculaires. Et ça s'est certainement très bien passé après.
Florent Lenéché.
Oui, c'est intéressant qu'on aborde justement ces problématiques un peu plus anciennes. On parlait tout à l'heure du terme urbanisme, depuis quand il y a des actions un peu théorisées sur ces questions. Enfin, le mot urbanisme, il vient de Cerdà. Donc c'est l'extension de Barcelone au milieu du 19e siècle. Et donc c'est ce plan à damier qui en fait reliait le centre historique de Barcelone avec les bourgs alentour. Et alors une chose qui est un peu caractéristique sur ce plan à damier et qui est complètement liée à cette problématique de l'encombrement, c'est que en fait les damiers sont... Enfin c'est des octogones au carrefour, c'est-à-dire vous avez les rues nord-sud et est-ouest, et puis ensuite c'est un peu... coupé comme ça sur chacun des coins, ce qui permettait en fait aux voitures de se croiser plus facilement. Et donc cette problématique au milieu du 19e siècle de l'encombrement, elle était très forte. Il y avait une très grande diversité de trafic. Les tractions hippomobiles, les premières tractions ferrées, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui était le problème du moment, et ça a été traité effectivement dans cette perspective. Ce qui me paraît intéressant dans la discussion qu'on est en train de voir émerger là sur les flux, puisque donc Marc Barthélémy évoquait les travaux qu'on peut réaliser. C'était vous à propos des téléphones mobiles. À partir des téléphones mobiles, on voit qu'effectivement, un des problèmes aujourd'hui, ça traite les circulations en ville, cette problématique de gestion de la mobilité. Et donc, effectivement, on a besoin de se doter d'outils pour connaître le problème et permettre effectivement d'agir dessus. Cela étant, moi, ce qui me pose question dans cette science de la ville, si on peut dire ainsi, effectivement, il y a depuis de longues dates, en fonction des données disponibles et des problèmes du moment, des théories qui fleurissent sur les villes, c'est par où est-ce qu'il faut commencer, quoi. Est-ce qu'il faut commencer par le problème qu'on se pose et voir quelle est la bonne mécanique en termes de construction théorique et de données qui permet d'y répondre. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sent qu'on a plein de données. On ne sait pas encore exactement quoi. Quels problèmes elles vont nous permettre de résoudre? On présume que ça va nous aider à quelque chose. C'est probablement vrai. Mais un des traits quand même très particuliers de ces données par rapport aux enquêtes classiques, c'est qu'elles sont assez peu sémantisées. C'est-à-dire que vous avez les présences des gens à partir de leur téléphone mobile, les données de passe Navigo par exemple, etc. Donc vous avez une masse de données sur qui est à un endroit à un moment donné, et vous en avez beaucoup, donc ça aide à réfléchir d'une certaine manière, alors que précédemment avec les enquêtes de déplacement par exemple, on avait beaucoup moins de données, mais par contre l'avantage qu'elles avaient, c'est qu'elles comme c'était des enquêtes réalisées auprès des individus en leur demandant qui vous êtes, quel est votre profil socio-professionnels, quel est votre, quels sont vos loisirs, où est-ce que vous vous rendez, etc. On avait plus de contrôle sur les données qu'on utilise, un contrôle qu'on peut peut-être après reconstruire a posteriori, ça c'est justement mes collègues qui vont parleront mieux que moi, mais ça pose effectivement un certain nombre de questions. Par quel problème prendre, par quel bout bandre ce problème, pardon?
Alors justement, voilà, la question des données, c'était la motivation que vous avez expliquée dès le début de cette émission. C'est grâce à cet afflux de données qu'une science peut se construire, mais comment les exploiter, Renaud Lambiotte?
Alors c'est que déjà, il y a des besoins de nouveaux algorithmes, hein, de nouvelles méthodes. Donc ça veut dire que pour des gens ayant des profils un peu comme les nôtres, il y a déjà toutes sortes de challenges théoriques et algorithmiques qui apparaissent naturellement. Parce que les données dont on parle, c'est des données qui sont temporelles, spatiales, relationnelles. Typiquement, on peut avoir des relations entre les individus qui vont aussi avoir un rôle. Donc c'est quand même des données qui ont une certaine complexité sous leur forme, mais aussi sous la taille qu'elles peuvent prendre. Et donc, donc ça veut dire qu'il y a déjà toutes sortes de challenges théoriques sur les outils qu'on peut créer pour, ne fût-ce que pour les analyser et mieux comprendre ce fouillis de données, parce qu'on parle de données, mais si elles ne sont pas pré-traitées, typiquement, ça va être une grande table avec plein de chiffres, mais on ne saura rien en faire. Donc,
si on prend les téléphones mobiles, excusez-moi, qui ont été cités, à quoi cela peut servir aujourd'hui? C'est-à-dire, là, c'est quand même une donnée qui est à la fois en plein développement, de plus en plus sophistiquée, et puis qui est dynamique aussi. Donc,
tout à fait.
On peut imaginer plein d'exploitations. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui existent?
Alors, il y en a déjà. Il y a déjà plusieurs initiatives, entre autres pour mesurer du trafic en temps réel. Quelque chose dans lequel faut savoir que chaque fois qu'on téléphone, typiquement, on est géolocalisé par notre opérateur. Et donc, si en temps réel, toutes ces données sont agrégées, elles permettent en temps réel d'avoir une évaluation du flux de personnes et donc de s'y savoir si des personnes sont bloquées dans un embouteillage. Donc, il y a déjà eu plusieurs initiatives pour utiliser ces données pour évaluer du trafic en temps réel. Mais sinon, je trouve qu'une situation dans laquelle elles sont particulièrement prometteuses, c'est dans des pays en voie de développement. Parce que comme c'était dit précédemment, en France, on a déjà beaucoup de données de recensement, donc même si on a déjà une certaine connaissance de la manière dont les gens se déplacent à l'intérieur des villes. Par contre, dans des pays en voie de développement, en Afrique en particulier, il y a peu de données de recensement, où elles datent d'il y a très longtemps. Elles sont parfois de mauvaise qualité. Et donc il y a 2 ans, il y avait eu un concours qui avait été organisé, où un opérateur de téléphonie français avait mis à disposition des données de téléphonie mobile de Côte d'Ivoire. Et où l'idée était de demander à la communauté des chercheurs d'essayer d'utiliser ces données pour résoudre des problèmes du jour le jour que pouvaient vivre les personnes en Côte d'Ivoire. Et une des solutions qui avait été amenée, qui a d'ailleurs gagné le prix du concours, c'était une solution pour essayer justement d'évaluer dans Abidjan, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire, évaluer les trajectoires des personnes, savoir où ils habitent, où ils travaillent, comparer cela avec les lignes de bus et essayer de déterminer des lignes de bus qui n'existent pas, mais dont l'existence permettrait de faciliter la vie des personnes qui habitent dans la ville. Donc ça veut dire que typiquement, ici, on est dans une situation dans laquelle on peut véritablement apprendre quelque chose sur la ville à partir de ces phénomènes collectifs qu'on mesure par la téléphonie mobile, qu'on aurait peut-être pu connaître en utilisant des moyens plus classiques, mais où dans certains pays, ces moyens ne sont pas à disposition des personnes qui sont en charge du développement des lignes de bus.
Marc Barthélémy, vous voulez intervenir.
Donc l'exemple des données téléphoniques est un bon exemple, parce que je crois qu'il y a vraiment une rupture avec les anciennes données INSEE, typiquement de recensement, où on demandait où est-ce que vous allez travailler, à quelle heure, etc. Là, on a une photographie en temps réel, une carte en temps réel du déplacement de milliers, millions d'individus, dans le meilleur des cas. Et c'est la première fois qu'on a accès à cet objet fondamental dans une ville et dans les transports, qui est la matrice origine-destination, où vivent les gens et où est-ce qu'ils vont travailler. Et ces données, une fois correctement anonymisées, nous permettent de répondre à des questions auxquelles les gens ne rêvaient même pas il y a 20 ans. On a une carte vraiment des flux dans les villes. Est-ce que la ville est monocentrique, par exemple? Est-ce que tout le monde va travailler dans essentiellement le même endroit ou pas? Ou est-ce qu'on a des centres secondaires, des centres d'activité? Et après, on peut compter les centres d'activité. Est-ce que les centres d'activité, est-ce qu'il y en a de plus en plus la ville grandit? Et comment le nombre de centres d'activité évolue, par exemple, avec la taille de la ville? Et ça, ce sont un peu des nouvelles questions auxquelles on sait éventuellement répondre. Ensuite, une fois qu'on a compté ces nouveaux centres d'activité, est-ce qu'on peut proposer une théorie qui explique leur émergence? Et donc, il y a vraiment tout un tas de nouvelles questions et de nouvelles théories qui peuvent accompagner ces nouvelles mesures, qui étaient très difficiles à faire avant avec les data INSEE.
Alors Vincent Nugriga, justement, vous citez un chiffre dans votre enquête qui est le nombre de centres-villes, donc des lieux dans les villes qui ont cette fonction et qui augmente quand la population de la ville entière augmente.
C'était un travail de Marc Barthélémy, justement. Oui, on voit les centres-villes alors se multiplier, le terme est un peu fort parce que justement ça progresse moins vite que la population. Mais en effet, c'est pour une raison assez simple, mécanique assez simple, que en fait, dès qu'un centre-ville est engorgé, les gens vont aller chercher ailleurs, enfin en tout cas vont aller travailler ailleurs, en tout cas ils vont se diriger vers un autre centre. C'est essentiellement un problème de congestion, non? Enfin,
oui, Marc Barthélémy, oui, c'était donc là la règle, ce serait que lorsque la population double, le nombre de centres-villes augmente de 50%. Donc il augmente moins vite que la population, mais il augmente de façon un peu proportionnelle, c'est ça?
Justement, moins que proportionnel, et ça, oui, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les lois d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut mesurer tout un tas de quantités en fonction de la population de la ville, et on voit des comportements. Et un des objets, disons, c'est typiquement des objets qu'on aimerait bien expliquer et faire un modèle pour ça, c'est comment on peut expliquer ces chiffres. Et dans le cas du nombre de centres d'activité, disons, dans une ville, ça augmente moins vite, évidemment, mais ça augmente. Et surtout, ça montre de manière très claire, sur beaucoup de quantités, qu'on est très loin de l'image un peu d'Épinal, de la ville monocentrique où tout le monde va travailler dans un centre, un central business district, comme disent les Anglais. C'est fini, ça. La ville est complètement, l'activité est très délocalisée sur plusieurs centres. Et comment peut-on expliquer ça? Peut-on faire un modèle? Et c'est là où est l'enjeu. Donc effectivement, on avait proposé un petit modèle qui, grâce à la congestion, montre qu'on peut expliquer ce nombre. Et c'est justement cet aller-retour entre une mesure finalement assez simple à partir de ces données massives et un modèle aussi qui essaye d'être assez simple. Cet aller-retour permet de mettre en évidence des mécanismes importants comme par exemple ici la congestion dans la formation de centres d'activité.
Florent Lanéché.
Oui, les débats sur le polycentrisme, ils sont assez anciens. Évidemment, ces nouvelles données permettent de détecter des choses qu'on ne pouvait pas détecter avant, notamment des centralités éphémères. Par exemple, quand il y a des concerts ou des choses comme ça, on arrive à voir des concentrations ponctuelles.
Ça, c'est pas tellement surprenant qu'un concert provoque une concentration.
Exactement. Mais par contre, les centres d'emploi, c'est des choses qui sont bien connues, identifiées par la littérature depuis quand même plusieurs décennies. Et je voulais citer des travaux du début des années 2000, donc de Champion, qui citait en fait trois processus qui conduisent à des villes polycentriques. Effectivement, Marc Barthélémy a raison. Un de ces processus, c'est une croissance endogène de centres périphériques du fait probablement de la congestion. Et notamment aussi du fait d'opportunités alternatives. C'est les Edge Cities qui ont été identifiés dès les années 90 aux États-Unis. C'est des centres d'activité et aussi des centres résidentiels le long des infrastructures autoroutières. Voilà, ça, c'est des processus dont on sait qu'ils existent. Mais un autre processus qui est assez intéressant, qui montre aussi bien le type de nouveaux objets géographiques qui émergent et donc de nouveaux problèmes auxquels on va devoir s'atteler, c'est ce qu'on appelle les mégacities. Cité polycentrique. Et donc c'est du polycentrisme qui émerge parce que des villes qui étaient historiquement disjointes mais importantes se mettent à être reliées fonctionnellement. Donc on peut penser par exemple à des villes comme les villes de la Ruhr en Allemagne par exemple. Et donc ça conduit à des problématiques nouvelles parce que je m'arrête dans un instant, mais je voulais réagir en fait au tout début de l'émission où vous citiez à juste titre hein, les chiffres assez impressionnants de villes tentaculaires, plurimillionnaires, etc. Mais les projections de l'ONU qui montrent effectivement une forte croissance de la population urbaine à l'horizon 2050, elles disent aussi que ces villes de plus de 10 millions d'habitants, c'est vrai qu'elles vont augmenter en nombre et puis en population totale, mais en réalité, en 2050, ce qui va représenter plus grande partie de la population urbaine, c'est dans les aires urbaines de moins de 1 million d'habitants. Donc c'est en fait une ribambelle de villes, j'allais dire petites, faut peut-être pas exagérer, de 1 million d'habitants, c'est la taille de l'aire urbaine de Marseille, je dirais, quelque chose comme ça, ex-Marseille. Et de ce fait, une des problématiques du futur, c'est des villes de 1 million d'habitants qui sont en réseau les unes avec les autres relativement proches, comment gérer ces nouveaux objets? On aura des nouveaux défis et pas seulement celui de résoudre la congestion du centre vers la périphérie ou le contraire.
France Culture, Science Publique. Michel Alberganti.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui de la question « La science peut-elle réinventer la ville ?» avec nos invités Marc Barthélémy, chercheur à l'Institut de physique théorique du CEA à Saclay, Renaud Lambiotte, professeur en mathématiques appliquées à l'Université de Namur, Florent Lenéché, maître de conférences à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et nous sommes avec Vincent Nouiriga, journaliste à Science et Vie, notre partenaire pour cette émission. Une autre règle qui intéresse beaucoup les citadins, c'est le temps de parcours entre leur domicile et leur travail, Marc Barthélémy. Et il semblerait que là aussi, vous étudiez les règles qui peuvent régir ce genre de situation.
Oui, tout à fait. Il y a depuis très longtemps un pilier, disons, de ces études, c'est ce qu'on appelle la constante de Zahavi ou de Marchetti, qui prétendait que, quelle que soit l'époque et quelle que soit la ville, le temps de trajet moyen journalier était toujours le même et d'une heure. Alors, ça peut paraître un peu curieux, mais ça a été vraiment un pilier auquel croyaient fermement tous les chercheurs travaillant dans ce domaine. Et on a pu...
Là, c'était les transports en commun qui étaient concernés ou bien...
Là, c'est transports tout confondu. Déplacement. Et c'était quelque chose qui était à la base de beaucoup d'études et les gens disaient oui, il y a la constante de Zahavi ou de Marchetti. Et on sait maintenant, grâce aux nouvelles données, que le temps moyen, finalement, passé dans les embouteillages, par exemple, augmente avec la taille de la ville. Autrement dit, on passe plus de temps dans les embouteillages par personne dans les grandes villes que dans les petites villes. Et ça, c'est un exemple de comportement, de loi d'échelle qu'on aimerait justement comprendre.
C'est pas une surprise absolument phénoménale.
Hein. Ah, que le temps moyen... Non, en fait, enfin... C'est pas si évident que ça. C'est une manifestation vraiment du caractère non linéaire de la congestion. Le fait qu'il y a l'interaction entre les gens fait que le temps moyen passé par personne dans les embouteillages n'est pas indépendant de la taille de la ville. C'est pas un truc si évident que ça. On pourrait imaginer qu'on a tous, je sais pas, à 10 minutes, un quart d'heure d'embouteillage. Non, on a d'autant plus d'embouteillages que la ville est grande. Et ça a été mesuré. Et très clairement, ça invalide la constante de Zahavi, le temps de parcours augmente terriblement avec la taille de la ville, sans compter que ça, c'est un temps moyen et qu'on a des fluctuations énormes, que certaines personnes peuvent mettre 5 minutes à pied pour aller travailler et d'autres peuvent mettre 2 heures. Donc ça, c'est un exemple, disons, de nouvelles données qui invalident un résultat.
Qui font remettre en cause des données précédentes. Oui. Florent Lenéché, vous voulez intervenir.
Oui, par rapport à la loi de Zahavi, il y a la question des données, donc c'est des choses... Donc la loi de Zahavi, ça date des années 70. C'est des données... le temps de trajet moyen, donc c'est-à-dire la moyenne pour l'ensemble des habitants de la ville du temps qu'ils mettent pour aller au travail ou pour se déplacer dans la journée, qui est par ailleurs très différent hein, selon les habitants. C'est bien sûr seulement une valeur moyenne. Et c'est vrai que ce qui avait frappé les esprits à l'époque dans les années 70, c'était cette espèce de constante urbaine, que les villes sont des objets si complexes qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont, on va dire, des constantes universelles. Donc dès qu'on a l'impression d'en saisir une, on a envie de s'appuyer dessus pour bâtir les villes. Et je crois que dès le moment où ça a été construit, les gens n'avaient pas la naïveté de croire que c'était une réalité. Mais par contre, je pense qu'il y a un contexte qu'il faut rappeler, c'était que ça s'inscrit dans les années 70 à une époque où on construisait beaucoup d'autoroutes et on commençait à réaliser que le modèle ancien qui était de dire « si vous avez de la congestion, alors vous créez de l'infrastructure ». Donc par exemple, vous avez une autoroute à 2 voies, elle est bouchonnée tous les matins, vous rajoutez une troisième voie, et à ce moment-là, ça résout le problème de la congestion. Et donc ça, c'était le paradigme ancien des années 50, qui a fait beaucoup de constructions d'autoroutes, surtout aux États-Unis, mais pas uniquement. Et en fait, à partir des années 70, on commence à comprendre que, en fait, c'est plus compliqué que ça quand... les infrastructures de transport, qu'elles soient routières ou transports collectifs, sont améliorées. À ce moment-là, les individus, en quelque sorte, échangent ce gain de temps qu'il aurait donné par l'investissement public contre des conditions de logement plus agréables. Donc, en quelque sorte, au lieu de gagner 10 minutes pour aller au travail, on va déménager pour avoir une maison plus grande. Et donc, il y a une espèce d'équilibre entre le confort, la qualité de vie et le temps dans les transports, avec une idée qu'on est prêt à accepter à peu près une heure. Et donc ça, c'était utile dans le sens où ça battait en brèche cette idée de, pour aménager les villes, il faut construire toujours des nouvelles infrastructures. Ça permettait aux urbanistes, notamment, cette espèce de constante universelle qui, effectivement, est infirmée par un certain nombre d'études. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Prenez en compte ce phénomène.
Ce que vous nous dites, c'est que, en réalité, la troisième voie de l'autoroute attire des gens qui vont venir s'installer plus loin
Exactement.
Du centre et qui vont utiliser cette troisième voie.
Tout à fait.
Ce qui fait que la congestion va se reproduire.
Exactement, c'est ce qu'on appelle
assez,
vite après. Tout à
la
fait. C'est ce qu'on appelle le transport induit, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une amélioration de l'offre, la demande s'adapte.
Marc Barthélémy.
Sans forcément discuter les arguments économiques qui poussent à ça, on constate quand même, et ça c'est très clair, que si on extrapole les courbes, par exemple, de temps passé dans les embouteillages, ça a été mesuré dans les villes américaines et dans quelques villes de l'OCDE, si on ne change rien, si les villes, la taille des villes augmente, on va quand même droit dans le mur, puisqu'on va arriver à des temps passés en embouteillage qui sont plus du tout soutenables. Et ça montre une chose, c'est qu'il y a quand même une limite très très claire à cette organisation et aux déplacements individuels. Tout mode de transport sensible à la congestion, phénomène de congestion, posera ce problème. Il arrivera un moment où, quand on passera une heure ou deux ou trois pour aller travailler, on s'arrêtera peut-être. Donc là, ça pose vraiment les limites de l'organisation de la ville et de la remise en question du déplacement individuel comparé au transport collectif. Et c'est vraiment un enjeu majeur, pas uniquement en termes de pollution, hein, même si on passe à la voiture électrique, mais en termes de temps passé dans les transports.
Alors ça, c'est un des aspects intéressants de l'enquête de Vincent Muriga, c'est de constater que finalement, ces données sont peu prises en compte par les urbanistes. Il semblerait qu'aujourd'hui encore, il n'y ait pas vraiment de communication entre ce type d'analyse des problèmes et ensuite le passage à l'acte que peut faire un urbaniste ou un décisionnaire comme un maire.
En effet, on peut le voir même ne serait-ce que dans les villes nouvelles très très modernes dont on parle en Arabie Saoudite, en Chine, il y en a aussi. Enfin, ces villes intelligentes qui sont créées un peu hors sol, elles reproduisent un peu les erreurs du passé, quoi, avec ce caractère trop modulaire, trop hors sol, trop corseté, enfin des visions qui reposent encore un petit peu sur l'idéologie que dénoncent certains chercheurs. Il y a ce côté aussi, il y a ces villes nouvelles et puis il y a aussi d'autres villes parce que la croissance urbaine dont on a parlé tout à l'heure, elle va se jouer dans les pays du sud, notamment vous pouvez pas imaginer au Nigeria, Lagos qui va doubler de volume d'ici à 2030, New Delhi qui va prendre 11 millions d'habitants d'ici à 2030. Et là, on est un petit peu dans des zones. Ils ont leur propre auto-organisation, ils ont leur propre logique, ces monstres-là. Mais je crois qu'ils gagnent 2000 habitants par jour et aucun service n'est accordé. Donc là, il manquerait plutôt des urbanistes. Il manque un État fort aussi. Enfin, on voit que ça passe par là. Mais même pour revenir à ces villes modernes qui sont plus ou moins sponsorisées par l'industrie informatique, bourrée de capteurs, etc. Je crois pas qu'elles apportent quoi que ce soit de novateur à la science de la ville, en tout cas à l'urbanisme en tant que tel. Elles prennent pas en compte, en tout cas, les travaux des physiciens. Je pense pas qu'elles apportent grand chose.
Renaud Lambiotte, de votre point de vue, justement, quelle est votre relation avec les urbanistes? Est-ce que vous sentez une demande de leur côté ou du moins une ouverture vis-à-vis de vos travaux?
Alors moi, de mon côté, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé plutôt avec des gens dans le domaine de l'informatique qui ont aussi besoin de ce genre d'études parce que voilà, donc il y a de plus en plus de services informatiques qui sont géolocalisés, et donc ça veut dire qu'ils génèrent des données, mais qui ont aussi besoin d'outils pour améliorer les services qui sont offerts aux usagers. Donc ça veut dire que, voilà, d'un point de vue plutôt pratique, j'ai quand même beaucoup de connexions, que ce soit avec des firmes privées ou avec des chercheurs en informatique pour les aider à l'analyse de ces données.
Par exemple, quel genre
par
de
exemple, service Par exemple, ici, on vient de lancer un service là, qui, à New York, donc dans lequel, ça vient d'un projet d'étudiant, et donc dans lesquels, donc en collaboration avec nos amis à Cambridge, donc vous connaissez tous Uber, hein, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Et voilà, une grande question, c'est voilà, en tant qu'utilisateur, est-ce qu'il vaut mieux utiliser Uber, ou est-ce que légal ou pas, ça dépend des pays, ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser le bon vieux taxi traditionnel? Et le fait est que dans la ville de New York, l'année passée, donc ils ont mis à disposition des chercheurs une énorme base de données sur les différents, sur toutes les trajectoires des clients, avec les durées de trajet, mais également les prix et également le pourboire qui était donné au conducteur. Et cette énorme base de données permet de nos jours de faire des comparaisons de prix avec ce que ça coûterait par Uber, parce qu'Uber a une API, donc c'est quelque chose qui permet en live de faire une demande d'estimation de coût d'un trajet d'Uber. Et donc ici, donc ça veut dire qu'en utilisant des modèles statistiques, des manières dont les gens se déplacent, on a lancé un comparateur de prix de transport en taxi à New York qui permet...
Le résultat, c'est que c'est pas forcément toujours le même résultat.
Le résultat, c'est que c'est pas
suivant
forcément...
Suivant les heures
et suivant les distances parcourues, ça sera l'un ou l'autre qui va l'emporter. Alors évidemment, c'est de nouveau des choses moyennes, hein, parce que ça va dépendre des fluctuations de trafic, ça va dépendre des fluctuations de prix de Uber, parce qu'Uber n'a pas un prix fixe. Il peut y avoir des changements de prix en fonction de l'offre et de la demande, mais suivant l'heure et suivant les distances qui sont parcourues, on peut avoir l'un ou l'autre qui l'emporte. Et ici, donc, c'est une espèce de comparateur de prix qui se base finalement sur ces études théoriques et qui offre quelque chose, un service finalement aux utilisateurs dans une ville.
Marc Barthélémy, sur cette question de la relation avec les urbanistes, comment vous la percevez, comment vous la vivez aujourd'hui ?
Plus que les urbanismes, je pense que beaucoup d'études actuelles font appel à l'économétrie. Et je crois que c'est une période intéressante parce que les choses changent un petit peu. Assez rapidement, je suis venu finalement, et je suis très content de ça, de collaborer avec des économistes et des géographes. Et on va commencer à travailler sur des problèmes concrets. Et là, le passage, alors c'est évidemment le passage difficile, hein, l'épreuve du feu, le passage de la théorie pure et dure à des questions concrètes, par exemple pour le Grand Paris ou ce genre de choses. Et je suis très content de participer à ce groupe de recherche et qui mêle plusieurs disciplines. Et je pense que ça, c'est un point nécessaire. Donc je pense que pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas, même si pour le CO2, par exemple, on a fait des études pour l'émission de CO2 qui, contrairement à ce que certains économistes prétendaient, l'émission de CO2 par habitant, en fait, augmente avec la taille de la ville, CO2 émis par les transports. Donc autrement dit, les grandes villes, c'est pas bien de faire des très très grandes villes parce qu'on émet plus de CO2 dû au transport.
Alors, c'est lié justement au temps passé dans les transports en fonction de la croissance de la
exactement.
Ville.
Exactement. Mais les économistes ont toujours prétendu, c'est pour ça qu'il fallait absolument faire des grandes villes, les économistes prétendaient à le taux de CO2 par personne diminue avec la taille de la ville. Donc faisons des grandes villes parce que plus elles seront grandes, plus elles seront vertes. En fait, on trouve exactement le contraire. Et ça, ce sont des études assez récentes qui émergent depuis 2-3 ans, dont on commence à avoir un écho. Et je crois que c'est important, effectivement, à ce stade, de s'impliquer dans des choses un peu plus pratiques et qui sont forcément interdisciplinaires. Mais ça, bon, ça va se faire et je suis très content de ça, mais c'est nouveau.
Florent Lenécher, vous percevez également ce rapprochement possible ou réel avec, entre scientifiques et urbanistes ou économistes?
Oui, donc c'est toujours, c'est les difficultés sémantiques liées à qu'est-ce que c'est que la science, qui est scientifique, qui ne l'est pas. Mais effectivement, dans l'urbanisme comme science de l'action, on va dire, comme démarche, disons, au service de la construction de la ville, effectivement, on a besoin de modélisation au sens le plus général. Hein. Ça peut être des modèles quantitatifs, comme ceux qui sont faits par mes deux collègues. Ça peut être aussi des modèles qui mêlent le quantitatif et des aspects qualitatifs, comme c'était rappelé au départ. La dimension culturelle, les dimensions qualitatives sont très importantes. Mais à cet égard, du point de vue de la... Donc en fait, des modèles sont produits par des physiciens, des économistes, toutes sortes de disciplines qui concernent la ville. Mais effectivement, dès qu'on arrive dans le domaine du modèle, c'est-à-dire la théorie qui se propose d'ajouter quelque chose, d'agir sur la réalité, enfin, je pense qu'il faut rappeler, c'est un peu tarte à la crème, mais j'étais quand même tenté de citer cette phrase de George Box. Tous les modèles sont faux, certains sont utiles, pour dire non pas que ça sert à rien de bosser, d'essayer d'affiner, de peaufiner les équations, mais pour dire que la façon dont je vois, moi, les interactions existantes dans certains pays, en France, on n'est pas en pointe là-dessus, mais au Canada, par exemple, il y a plus de choses là-dessus, c'est le modèle comme outil d'intermédiation dans une décision. Les décisions sur la ville aujourd'hui concernent de plus en plus d'acteurs qui peuvent être publics, privés, c'est des choses très compliquées. Et une des choses que permettent les modèles, c'est aux gens de se comprendre, en fait. C'est d'objectiver un certain nombre de choses. Et en fait, chaque acteur a sa rationalité, ses objectifs, et ça permet de dialoguer de façon intelligible. Et donc, ça a au moins cette vertu-là.
Est-ce que ça se produit aujourd'hui? Est-ce que ce dialogue existe, ou est-ce qu'il est potentiellement... reste potentiel?
Ça existe. En France, encore une fois, on n'est pas en pointe là-dessus. Moi, j'ai un exemple. Là, j'avais été une école d'été l'été dernier au Canada. Alors quelque chose qui dépasse un peu, qui est hors de l'urbanisme, qui est sur les migrations de baleines sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y avait une problématique de tourisme. On a besoin de mettre des bateaux sur le fleuve Saint-Laurent pour le développement économique local, et une problématique de préservation des espèces naturelles. Donc, deux associations qui sont en conflit objectif. Donc, il fallait réduire l'emplacement alloué aux baleines, mais pas trop, parce que sinon elles ne peuvent pas se déployer dans un environnement qui leur est favorable. Et donc c'est notamment les travaux de Lyle Barrott qui ont réussi justement à se faire intermédiation entre les deux intérêts, et ils ont réussi à trouver une solution concrète pour dire on va faire ces zones d'interdiction de naviguer, et ça c'est avec des outils de type système complexe, et ça a effectivement permis de sortir par le haut d'un problème de dialogue de sourds.
Donc merci pour ces propos qui ouvrent une certaine perspective optimiste sur l'impact de la science sur le développement des villes. Merci à Marc Barthélémy, Renaud Lambiotte, Florent Lenéchet et Vincent Nuriga d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez approfondir notre sujet d'aujourd'hui en lisant l'enquête de Vincent Nuriga dans le magazine Science et Vie, dans le numéro du mois de mai 2015. Et je vous rappelle le titre de cette enquête, Réinventer la ville, un numéro qui est toujours disponible en kiosque, n'est-ce pas Vincent Nuriga? Sur notre site, vous pouvez trouver les références de publications scientifiques et d'ouvrages sur l'aménagement des villes. Et vous pouvez réécouter cette émission, comme toutes celles de Culture Science, pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an, et bien entendu nous faire part de vos réactions et commentaires. La semaine prochaine, vendredi 15 mai, nous vous proposerons une émission assez particulière dans le cadre du Club Science Publique. Nous débattrons en effet au sujet du film Interstellar, réalisé par Christopher Nolan en 2014 et récemment sorti en DVD. Ce film de science-fiction s'est appuyé sur les conseils d'un astrophysicien, Kip Thorne. Interstellar exploite ainsi de nombreux phénomènes physiques et astrophysiques, relativité générale, trous noirs, trous de ver. Nous en débattrons avec notre invité, Roland Lehoucq, passionné de science-fiction et astrophysicien au CEA, ainsi que deux membres du Club Science Publique, Bruno Falissard et Jean-Michel Beignet. Science Publique, Dany Journaud, Philippe Palares, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous et excellent après-midi sur France Culture. Within you have a spirit of grace.